feu, une émission de Catobel, Angélique Tasio, Manu Van Leer.
Bonjour, merci de nous rejoindre dans Plein Feu en compagnie d'Angélique Tasio. Bonjour Angélique.
Bonjour Manu, bonjour à tous.
Et notre invité aujourd'hui qui est Nicolas Wery, chargé de plaidoyer pour le JRS, le Jesuit Refugee Service. Bonjour Nicolas.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Nicolas Wery, vous êtes l'auteur d'un rapport sur la séparation de familles par la détention, un document qui fait suite à un an de recherche sur la situation des migrants en centre fermé. Au cours de cette émission, nous aurons l'occasion de parler des situations que vous avez rencontrées, de vos différents constats et recommandations que le JRS formule pour ces situations. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un peu plus ample connaissance avec vous. D'où êtes-vous originaire et quel a été votre parcours scolaire et professionnel avant de rejoindre le JRS ?
Écoutez, je suis bruxellois, je suis très belge, on va dire. Ma mère vient de Bruges, mon père de Liège et je suis né à Bruxelles. Donc vraiment le petit belge parfait, on pourrait dire. J'étudiais en flamand jusqu'à l'université. À l'université, je suis passé à Saint-Louis, où j'étudiais le droit pendant 5 ans, avant de partir encore faire une année à Leuven et une année à Utrecht, aux Pays-Bas.
Donc des études en irlandais.
Études en irlandais, mais pas à l'université. L'université en français.
Et les spécialisations à Leuven et Utrecht, c'était quoi ?
À Leuven, c'était un master en études européennes. Ça m'a permis un petit peu de picorer, disons, dans différentes facultés, des cours dans différentes facultés. C'était de la sociologie, de la philosophie, un petit peu de tout, disons. À Utrecht, là, on est reparti un petit peu tout de même sur le droit. J'ai fait un LLM en droit de l'homme, si on veut. Oui.
Et à la sortie de l'université, alors, quelles étaient les pistes ?
Écoutez, j'ai d'abord passé par la Cour pénale internationale, faire un stage là-bas, à La Haye, donc, du coup. C'était un travail qui était très bureaucratique, quoi, disons. On était assez loin des situations, des personnes vécues, on va dire. Et j'avais vraiment un besoin de contact direct avec les personnes, enfin avec des personnes simplement dans mon travail, disons. Je suis du coup parti en Égypte, travailler avec des réfugiés. C'était en 2017, donc c'était un petit peu après ce qu'on a appelé la crise migratoire. J'ai passé 2 ans au Caire à travailler directement avec des réfugiés, à les accompagner en tant qu'avocat, si on veut. Et par la suite, j'en ai pas eu assez apparemment. Je suis parti sur les îles grecques. Les fameux hotspots, le fameux système hotspot dans les camps là-bas en Grèce. Je suis resté aussi 1 an ou 2 avant de revenir donc à Bruxelles, en Belgique, pour travailler pour le JRS.
Et donc ce travail avec les migrants, les réfugiés, c'était vraiment un choix personnel ? C'était une thématique qui vous tenait à cœur ?
C'est une thématique qui était très, je ne vais pas dire à la mode, c'est peut-être pas le terme, mais qui était très, très prégnante à ce moment-là, on va dire. C'était quelque chose qui était vraiment dans l'actualité, c'était une cause pour laquelle s'engager me semblait en tout cas pas un vain combat, disons.
Et ensuite, votre entrée au JRS, alors ?
Mon entrée au JRS, c'était un désir, disons, de ne plus être trop directement en contact avec les personnes, mais aussi un petit peu de vouloir changer les structures, on va dire. Donc, je travaille en tant que chargé de plaidoyer. Le but est littéralement de changer les structures existantes. Donc, je parle de lois, de réglementations, etc. Mais il y avait cette envie-là. Et je pense que, de manière légitime, on ne peut faire ça que dans son propre pays aussi, vouloir changer les lois d'un pays. Donc, je suis revenu en Belgique pour ça, on va dire.
Quelles sont les différentes missions du JRS ?
Le JRS est une organisation qui est présente dans de nombreux pays. On est présent dans 56, 57 pays, il me semble. En Belgique, ce sur quoi on travaille, c'est de manière très spécifique, de manière un petit peu niche, on peut dire, la détention des migrants. Notre mission, elle se résume, je ne sais pas un homme de slogan, mais en 3 mots, accompagner, servir et défendre les réfugiés ou les personnes migrantes. De manière très, très pratique, l'équipe du JRS est composée de visiteurs qui visitent les différents centres de détention en Belgique. Ils accompagnent les personnes là-bas, c'est-à-dire qu'ils écoutent tout simplement les personnes qui y sont enfermées. Ils leur tendent une oreille, ils leur offrent un espace pour s'exprimer, pour être écoutés. Ils servent ces personnes en tentant de se faire le relais entre ces personnes-là et la direction, le personnel du centre, mais également avec d'autres organisations, les avocats, etc. Et puis au niveau de la défense, ça c'est un petit peu plus mon rôle, disons, défendre les droits des réfugiés en tentant un petit peu changer les structures, les lois qui sont en place.
Quand vous êtes parti en Grèce, était-ce déjà avec le JRS ?
Alors le JRS est présent en Grèce, c'est vrai, mais ils ne sont pas présents sur les îles, non. C'était avec une autre organisation qui s'appelle Equal Rights Beyond Borders, qui est une organisation allemande à la base.
Dans les centres fermés, qui sont les personnes qui sont présentes dans ces centres et pourquoi s'y retrouvent-elles en détention ?
Il y a grosso modo 3 grands groupes de personnes. Il y a d'une part ce qu'on appelle les sans-papiers, donc des personnes qui n'ont pas les papiers, enfin en tout cas pas les papiers requis pour pouvoir vivre ici en Belgique, qui sont donc sans séjour ici en Belgique, qui sont arrêtés sur le territoire suite à un contrôle d'identité ou autre. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle les cas Dublin. Donc ce sont les personnes qui ont demandé l'asile sont en Belgique, mais qui en vertu du règlement européen Dublin doivent être transférées vers un autre État qui est responsable de traiter leur demande d'asile. Typiquement parce qu'elles sont rentrées en premier par cet État. C'est souvent les États qui sont donc frontaliers, la Grèce, l'Italie. La troisième catégorie de personnes, ce sont ce qu'on appelle les personnes inadmissibles. C'est un terme un peu technique pour parler des personnes qui ont été arrêtées à la frontière et qui n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire belge. Parce que soit ils n'ont pas de visa, soit il y a beaucoup de conditions qui existent pour rentrer sur le territoire. Pour un touriste doit par exemple posséder une certaine somme d'argent, doit posséder un ticket de retour, doit pouvoir établir où est-ce qu'il va résider pendant la durée de son séjour. Bon nombre de personnes sont donc arrêtées à la frontière comme ça et alors placées en centre fermé également. Voilà les trois groupes.
Nicolas Oueri, combien de centres de détention y a-t-il en Belgique ?
Alors il y a 6 centres pour les personnes adultes. Et en plus de ça, on a également des centres pour familles, ce qu'on appelle les centres pour familles. Ils se répartissent sur 5 sites différents.
Et on parle de quelle capacité quand vous évoquez ces centres ?
La capacité totale des centres, elle est d'environ, elle aussi on va dire, mais elle est d'environ 600 places.
Y compris les familles alors.
Non, les familles c'est en plus, on va dire. La famille c'est une centaine de places en plus, il me semble, quelque chose comme ça. Pas certain de ce chiffre.
Et essentiellement ce sont des hommes ?
Il y a un centre qui est uniquement dédié aux femmes, c'est le centre de Holzbeek. On a un deuxième centre de Caricol qui a également, donc c'est le centre où sont enfermées les personnes à la frontière. Là, ce sont également des femmes et des hommes. Et puis le centre de Bruges a également une aile pour femmes qui est pour l'instant fermée, mais donc potentiellement les femmes y sont enfermées également. Ouais.
Quelle distinction fait-on entre migrants et réfugiés ?
Un réfugié, en théorie, quelqu'un qui est éligible à recevoir ce qu'on appelle la protection internationale. C'est une personne qui a fui son pays. Parce qu'il a peur d'y être persécuté. En ce sens, on peut dire que tous les réfugiés sont des migrants, mais que tous les migrants ne sont pas des réfugiés.
Et donc, il y a une distinction qui se fait par l'État lui-même, ou est-ce qu'on définit, par exemple, des pays qui sont susceptibles d'être considérés comme source de personnes pour des réfugiés ?
Non, c'est n'importe qui arrive en Belgique peut faire une demande d'asile, qu'importe son pays d'origine. Alors, en fonction du pays d'origine, évidemment, il y aura plus de succès dans la procédure, mais en théorie, tout le monde peut demander l'asile, oui.
Moi, je voudrais revenir avec vous, Nicolas Oueri, sur le travail du GRS dans les centres fermés. Il se fait par le biais de vos visiteurs essentiellement ?
Essentiellement, oui. La majorité du staff du GRS, ce sont réellement des visiteurs. Oui. On tente d'être là, d'aller là où personne ne va, disons, parce que ce sont des endroits qui sont quand même pas très connus non plus, il faut dire, et où pas grand monde ne va, oui.
Donc ce sont des volontaires pour la plupart ?
Il y a des volontaires, mais il y a également des visiteurs qui font partie du personnel du GRS, ouais, qui sont rémunérés.
Et il vous arrive à vous, Nicolas Oueri, de rendre visite ?
Je m'y rends de manière régulière, oui, pour documenter des situations qui sont peut-être particulières, qui méritent entre guillemets d'être documentées, pour recueillir des témoignages, et puis parfois pour dépanner aussi, tout simplement.
Et c'est important pour vous, ce contact sur le terrain ?
C'est très important, je pense réellement que c'est une des forces du GRS de pouvoir irriguer notre travail avec ces visites, avec ce vécu, avec ce travail de terrain. Ça nous rend crédibles, tout simplement aussi. Et pour moi aussi, ça me fait une petite piqûre de rappel, disons, à chaque fois que j'y vais. Oui.
Vous avez l'impression qu'on oublie ?
C'est pas qu'on oublie, c'est qu'on ne sait pas, à mon avis, tout simplement. Je pense que la majorité des personnes ne savent pas que ces centres existent.
Oui, mais vous avez quand même été, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, en Grèce et dans différents lieux problématiques. Est-ce qu'on peut oublier quand on est repris par le rythme d'une vie à Bruxelles ?
Je pense, oui. On a tendance à mettre de côté, oui. On a tendance à, peut-être pas oublier, c'est pas le mot exact, mais on a tendance un petit peu à relativiser, quoi.
Évacuer.
Évacuer, peut-être, se protéger, qu'importe, oui.
Combien de temps peut durer cette détention dans les centres fermés ?
Alors, la loi prévoit un délai de 8 mois maximum. Le problème, c'est qu'il y a une pratique qui est mise en place par l'Office des étrangers, qui gère donc ces centres. Quand a lieu un rapatriement, et que ce rapatriement échoue, pour l'une ou l'autre raison, ce délai est remis à zéro. Donc, on retrouve des gens qui peuvent au maximum être détenus pendant 18 mois. 18 mois, c'est le délai légal européen, disons.
Et qu'est-ce qui les attend à l'issue de ce délai ?
C'est une voie à deux issues, la détention. C'est soit il y a un retour vers un pays européen ou vers un pays d'origine, soit une libération si on n'a pas réussi à effectuer ce retour. Ouais.
Le retour, ça peut être un retour volontaire également ?
Depuis les centres, on peut signer pour un retour volontaire, oui. Il y a des personnes qui sont, entre guillemets, brisées par la détention et qui sont amenées à signer pour un retour volontaire depuis les centres, du coup, oui.
Et quand vous dites libération, c'est sans papier, alors ?
Ça dépend. Ça peut être avec papier. Typiquement, les personnes qui sont arrêtées à la frontière, qui demandent l'asile à la frontière, la grande majorité qui sort, c'est avec des papiers. C'est avec le statut de réfugié. Dans les autres centres sur le territoire, donc les 5 autres centres, c'est plus rarement avec des papiers.
Quelles sont les conditions en Belgique pour un regroupement familial ?
C'est une question compliquée. Ça se passe en deux temps, disons. La procédure est extrêmement compliquée. Elle l'est de plus en plus au fur et à mesure des législations. Il faut d'une part qu'il y ait un lien familial établi. Donc il faut qu'entre des conjoints, par exemple, il faut qu'il y ait un mariage ou il faut qu'il y ait une cohabitation. S'il y a un enfant, il faut que l'enfant soit reconnu, que le père ou la mère soit inscrite comme tel dans l'acte de naissance de l'enfant. Une fois qu'on a un lien juridique établi comme cela, on peut donc postuler pour le regroupement familial. Et là, il y a vraiment un tas de conditions. Je pense typiquement entre deux conjoints, le conjoint doit toucher 2000 euros par mois, doit avoir un appartement qui est suffisamment grand, il faut qu'il y ait une sécurité sociale pour les deux conjoints qui existent, tout un tas comme ça de conditions qui existent et qui sont vraiment pas faciles à réaliser.
J'imagine que justement toutes ces conditions, ça doit compliquer la vie des personnes migrantes, réfugiées. Est-ce qu'elles imaginent ça quand vous entendez les témoignages ? Est-ce qu'elles imaginent ce parcours du combattant administratif une fois qu'elles arrivent sur place ?
Franchement non. Je pense que, en étant totalement franc, il n'y a personne qui s'imagine que ça peut durer des mois, que ça prend de l'argent, du temps, que ça prend un avocat, un bon avocat aussi. Elle ne s'imagine absolument pas, non. Je suis moi-même passé par un regroupement familial, je veux dire. Ma compagne est anglaise. Et depuis le Brexit, elle ne peut pas résider en Belgique de manière légale pour plus de 3 mois. Donc on a dû passer par la procédure. Ça a pris 11 mois. Quoi, donc, et 11 mois en étant vraiment sur la balle, quoi, comme on dit. Oui. Donc pour les gens qui sont un petit peu plus, enfin, moins au courant des procédures, ça peut prendre beaucoup plus de temps encore. Oui.
Humainement, Nicolas Wery, que vous a apporté et que vous apporte ce travail au sein du JRS ?
C'est une question difficile, ça. Je ne vais pas faire un débat sur le sens du travail, etc. Je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je pense que simplement, si de par mon travail, je peux offrir la possibilité à d'autres personnes de pouvoir s'épanouir, c'est suffisant et c'est ce que ça m'apporte, je pense. Ouais.
Du sens.
Un certain sens, pas du sens, mais oui, peut-être, oui.
Je vous propose qu'on marque une petite pause en musique avant de se retrouver pour parler de votre étude et du rapport qui est paru récemment, un rapport signé donc par vous et par le JRS. Nicolas Wery, on va écouter Sonic Youth.
Denigrate us girls. Male, white, corporate oppression.
Tell it like it is.
Huh?
Yeah.
Don't be shy.
Word up.
Fear of the female power.
Fear, female, black. Fear, baby.
I just want you to know that we can still be friends.
Let everybody know.
La suite de plein feu, Nicolas Wery, je rappelle que vous êtes chargé de plaidoyer pour le JRS, le Jésuite Refugee Service. Vous avez tout récemment publié un rapport sur la situation des personnes en centre fermé et l'impact de cette détention dans les relations familiales. Comment s'est déroulée cette étude que vous avez menée pendant un an ?
Ça a commencé, comme bien souvent, avec nos visiteurs, on va dire. Je leur ai demandé, à chaque fois qu'ils rencontraient quelqu'un en centre fermé, d'indiquer si oui ou non la personne avait de la famille à l'extérieur. Donc ça a commencé avec une collecte de données de leur part, tout simplement. Collecte de données qui, par la suite, a donc été analysée par moi-même. Et de là est parti donc ce rapport, disons. Ouais.
Sur combien de personnes, alors ?
Au total, on a demandé à 317 personnes dans les centres s'ils avaient de la famille, en 2023.
Ouais. Et quand vous dites famille, c'est famille en Belgique ?
Quand je parle de famille, c'est par analogie à la législation en matière de regroupement familial. Donc c'est vraiment un conjoint qui a des papiers sur le territoire qui souvent en fait est belge ou alors européenne, de nationalité européenne, ou alors effectivement un enfant mineur également avec un séjour. Ouais.
Expliquez-nous la méthodologie que vous avez observée, quels étaient les critères sur lesquels vous êtes basé ?
Il n'y a pas eu de critères réellement pour rassembler ces données. C'était réellement dans le quotidien de leur travail, nos visiteurs ont simplement posé une question de plus aux personnes qui déjà y posaient en fait auparavant. Simplement, on l'a écrite, quoi, disons, cette question-là. Ouais.
Et pourquoi ce rapport, la séparation de famille par la détention, avec quel objectif ?
Je pense qu'en période de Covid, en fait, la capacité des centres fermés a été diminuée par deux pour pouvoir permettre la distanciation sociale. Et une fois que la capacité des centres a commencé à réaugmenter, on a vraiment remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient en fait de la famille à l'extérieur. En théorie, ces personnes ne devraient pas vraiment se retrouver en centre fermé parce qu'elles sont éligibles au regroupement familial. Mais donc on a vraiment remarqué une tendance, et c'est dans le but de simplement documenter cette tendance à la base qu'on est parti sur ce thème-là. Oui. Après, il faut dire également que le thème de la famille, etc., c'est quelque chose qui est assez cher au JRS, clairement aussi, en fonction de nos racines chrétiennes. Oui.
Et dans les règles de fonctionnement dans les centres fermés, il y a des visites qui sont organisées, par exemple ? Il y a des temps en commun qui sont possibles ?
Il y a des visites, oui. Chaque jour, en théorie, il y a une heure de visite par jour, oui.
Mais il faut encore que les familles puissent se déplacer.
Mais c'est le problème. Il y a de nombreux centres qui sont totalement inaccessibles, on va dire. Le centre de Merksplas de Bruxelles, moi je prends, quand je vais le visiter, 2 heures, tout simplement, pour m'y rendre. Donc c'est 2 heures aller, 2 heures retour, ça fait 4 heures. Si tant est que je travaille ou que quelqu'un travaille, doit chercher les enfants à l'école, etc., ça ne marche pas, tout simplement. Ouais. Parce que les visites sont à heure fixe, évidemment, aussi. Ouais.
Mais oui.
Souvent à 13 heures, 14 heures, etc. Donc ouais, c'est au milieu de la journée, oui.
Alors dans ce rapport, vous pointez un nombre d'enfermements en forte hausse. La Belgique est-elle bien dans son droit avec cette détention de migrants? Que dit la loi?
La loi dit que oui, qu'on peut enfermer les personnes. C'est une politique qui est en œuvre depuis 1988 maintenant. La détention des personnes, ça concerne de 6 à 8 000 personnes par an. Et tant qu'une personne peut, enfin, tant qu'il y a des perspectives de retour, la personne peut effectivement être éloignée. Alors, pour parler spécifiquement de la famille, c'est un critère qui doit être pris en considération lorsque une décision de retour est prise par l'Office des étrangers. C'est ce qu'on a analysé aussi dans 22 dossiers de manière particulière, ces fameux arguments qui sont utilisés par l'Office. On voit que ces arguments sont souvent très formels, souvent ça ne colle pas avec la réalité, qu'on va dire qu'il y a un écart entre ce que la décision de retour et d'éloignement dit et la réalité vécue par la personne même, on va dire. Il y a un appel qui est possible face à ces décisions, contre ces décisions, mais ça doit avoir lieu en disant les 10 jours. C'est un délai qui est très difficile c'est très difficile pour une personne qui est détenue de, en 10 jours, trouver un avocat qui a le temps de faire le recours. Donc typiquement, il y a très peu de recours qui sont pris contre ces décisions, malheureusement. Ouais.
Et quand vous dites que c'est un critère qui est pris en compte, ça veut dire qu'il n'est pas forcément prioritaire. La famille, ce n'est pas forcément une priorité dans la décision.
C'est ce qu'on a vu dans les dossiers analysés. Hein. Donc ça reste un critère parmi d'autres, oui. Je pense que le critère principal, c'est si le retour est possible, tout simplement. De manière pragmatique, on va dire, de manière très pratique, si le retour est possible. Et alors l'Office étranger va argumenter qu'une vie familiale peut être vécue à l'étranger. Et ça, effectivement, la loi ne le dit pas. C'est pas parce que vous avez une famille que vous pouvez vivre en Belgique. Cette vie familiale doit pouvoir exister, mais pas spécifiquement en Belgique. Ça peut exister à l'étranger aussi. Mais ce qui fait qu'on arrive à des espèces d'argumentation totalement bidon de la part de l'Office étranger, mais où dans la décision, ils vont indiquer qu'une vie familiale est possible avec, je cite, à travers les moyens de communication modernes. Donc, d'après l'Office étranger, une personne peut vivre sa vie familiale avec son enfant, etc., via WhatsApp, via Messenger, etc., ce qui est totalement aberrant, évidemment.
Avec des appels vidéo, quoi.
Exactement. Ouais.
Et vous parliez de la complexité administrative. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour venir aider? Est-ce qu'il y a des associations, justement, qui se mettent au service de ces personnes pour les aider dans la complexité administrative?
Je pense qu'il y a un réseau d'organisations, effectivement, qui aide les personnes également à... Également dans la procédure de regroupement familial, il y a Caritas, il y a de nombreuses associations qui aident à naviguer dans ce paysage un petit peu compliqué, quoi, on va dire. Oui.
Quel est l'impact de ces mois d'enfermement pour les personnes détenues et pour leurs familles?
La détention, ça abîme, clairement. Je pense que ça pèse. On voit des personnes qui psychologiquement sont vulnérables et de plus en plus vulnérables. Et alors évidemment, quand elles ont de la famille, ça se répercute sur la famille même aussi. Donc il y a l'aspect psychologique. Il y a parfois un aspect qui est physique même. On a documenté une dame qui venait d'accoucher et qui devait se déplacer tous les jours pour aller voir son mari qui était enfermé. Alors qu'elle s'est remettée d'une césarienne, elle avait du mal physiquement, on va dire. Mais les conséquences pour la famille sont évidemment financières aussi. Souvent, la personne qui est enfermée travaillait. Donc ça fait un salaire en moins. Elles peuvent être très, très pratiques aussi, ces conséquences. Hein. Quand il y a un enfant... Typiquement, si le conjoint allait chercher l'enfant à l'école, emmener l'enfant à l'école, emmener l'enfant au sport, ce genre de choses-là, typiquement, tout ça tombe à l'eau, évidemment. Ouais.
Est-ce que le JRS a l'occasion d'accompagner aussi ces familles fracturées ou bien le JRS se concentre exclusivement sur les personnes détenues?
On tente de faire ce qu'on peut, mais avec des petits bras, évidemment. Alors... Ça ne va pas être typiquement conduire les enfants à l'école, ce genre de choses-là. On n'a pas la capacité de faire ça. Mais ça peut être trouver un bon avocat, typiquement. Ça, on tente de faire, oui.
Et maintenir le lien éventuellement avec ses familles?
Ça aussi, oui. Donc, on visite une fois par semaine. Et après la visite, typiquement, on va appeler la personne de la famille, oui. Enfin, la famille de la personne, oui.
Pour faire la jonction entre les deux univers.
Ouais. Exactement, oui.
Ces mois d'enfermement doivent tout de même rimer avec fracture sociale. C'est pas possible pendant ces mois d'enfermement de nouer des liens, de découvrir un quartier, de rencontrer ses voisins. Donc ça veut dire que ces contacts-là, ils passent plutôt par la famille. Et donc même en cas de décision positive, voilà, y a des mois qui sont perdus.
Non, absolument. Hein. Je pense que les personnes sans papier, typiquement, qui mettent en place des stratégies un petit peu compliquées déjà pour survivre à l'extérieur, tout ça est totalement détruit, anéanti une fois qu'elles sont en détention pendant plusieurs mois. Quoi. Si elles avaient effectivement, si elles travaillaient dans l'horeca au noir, etc., ce genre de choses-là, l'emploi est perdu. Oui, non, c'est un impact clair là-dessus. Oui.
On n'a pas parlé de chiffres, mais vous avez réussi à isoler quelques chiffres dans ce rapport, mais sur base toujours des témoignages que vous avez recueillis.
Ou en tout cas des dossiers qu'on a documentés. Oui. Mais on était assez stupéfait en fait, de constater que, typiquement au centre de Bruges et de Merksplas, 40% des personnes enfermées avaient à l'extérieur de la famille. C'est un chiffre qui est immense, c'est tellement immense qu'on a en fait demandé à nos collègues qui visitent le centre de Votem quels étaient leurs chiffres. Mm-hmm. Et le résultat était le même, c'était également 40%, elle est légèrement en dessous, 38,8% pour être précis. Mais donc ça concerne quasiment la moitié des personnes enfermées. Oui. Et alors il faut dire qu'apparemment, il faut ajouter que le fait d'avoir un conjoint ou un enfant à l'extérieur n'aide pas à sortir. Parce que quand on a regardé dans le chiffre qui était libéré, la différence avec les personnes qui n'avaient pas de famille était marginelle, de 5 à 10%, quelque chose comme ça. Oui.
Quels sont alors les éléments ou les facteurs clés qui permettent de sortir?
Je pense que la première chose, c'est réellement l'assistance juridique. Elle est catastrophique, calamiteuse, en détention. Très récemment, il y a 2 semaines en fait, on documentait la situation, on visitait une personne qui venait du Nigeria, un père qui avait un enfant. L'enfant était placé parce que la mère avait été déclarée incapable. Et donc le père avait réellement une vie familiale avec l'enfant, le voyait 3 fois par semaine, l'emmenait au foot 1 fois par semaine, à la natation, et puis le samedi c'était le jour de visite. Ce père-là s'est retrouvé en détention, et son avocat, au lieu de faire une demande de regroupement familial, a fait ce qu'on appelle une demande de 9 bis, donc, qui est une procédure totalement différente, disons. Et donc le monsieur a fini par être expulsé au Nigeria, alors que si la bonne procédure avait été introduite, il serait sorti, quoi. Donc c'est vraiment un problème.
Dans le rapport, vous avez inclus plusieurs témoignages. Pourquoi cette partie de témoignages? C'est une envie de sensibiliser par la parole?
C'est un petit peu faire sortir la voix des personnes, clairement, oui. Mais je pense que l'intention principale était, à la base, d'uniquement faire des témoignages, avec une partie d'analyse beaucoup plus restreinte. Mm-hmm. Mais après, les chiffres étaient tellement impressionnant, on était tellement, oui, comme je dis, stupéfait par ces chiffres qu'on a dû un petit peu se plonger sur le pourquoi du comment et qu'on a commencé un petit peu à analyser des dossiers plus en profondeur pour voir comment est-ce que c'était motivé, comment est-ce qu'on en arrivait là. Mais à la base, on voulait vraiment donner la parole aux personnes comme ça. Oui.
Vous pourriez nous donner 2-3 exemples pour nos auditeurs?
De situations familiales qui ont...
Mm-hmm. Oui, ou de cas documentés selon votre expression.
Oui. Un peu formel peut-être, oui. Je pense à un père camerounais, typiquement, qui était séparé de sa conjointe, qui n'a pas été reconnu comme père de l'enfant parce que la partenaire refusait que cela se passe comme ça. Donc le monsieur a dû passer par la justice et par un test ADN, etc., pour se faire reconnaître père de l'enfant. Entre-temps, il a été arrêté malheureusement, il s'est retrouvé en détention. Le jugement par rapport à sa paternité a été prononcé un mois avant que lui ne soit malheureusement rapatrié vers le Cameroun. Ouais.
Est-ce que les impressions d'injustice que peuvent ressentir ces personnes amènent parfois à certaines violences dans les centres fermés ou au minimum à des tensions?
C'est un univers qui est carcéral, hein, clairement, les centres fermés. Ça... La grande différence avec les prisons, on va dire, c'est que les personnes ne savent pas quand elles vont sortir dans les centres fermés. Donc ça engendre de l'insécurité, de l'incertitude, de la frustration beaucoup. Et oui, ça arrive qu'il y ait des épisodes violents, oui, des gens qui ont rien à taper sur taper avec une chaise sur le sol, ce genre de choses-là, ça arrive, oui, clairement.
Les repas sont pris en commun ou
Les repas sont pris en groupe dans des réfectoires.
Donc il y a quand même des temps de parole possibles.
Avec d'autres personnes, oui, bien sûr, oui. Avec d'autres détenus, oui.
Donc ça se distingue quand même d'un monde carcéral qui, lui, est beaucoup plus individualisé.
En ce sens-là, oui, c'est vrai. Les personnes peuvent effectivement sortir de leur cellule. Il y a des espaces communs dans lesquels ils peuvent vivre.
Pour les partages de repas ou certaines activités. Y a-t-il des activités, par exemple, qui sont organisées sur place?
Il y a des activités prévues sur place aussi, oui. Il y a une équipe d'éducateurs par centre qui organise tournois sportifs et autres, typiquement. Ouais.
Des cours de langue?
C'est pas aussi constructif, non, je pense pas.
Est-ce que la situation est fort différente dans d'autres pays européens?
Alors, c'est une bonne question. Au niveau, vous voulez dire du taux de personnes qui ont des familles, de la famille à l'extérieur ou bien...
Ça, et l'organisation des centres fermés également.
Je pense qu'un centre fermé est un centre fermé. Clairement, dans d'autres pays européens, donc la grande majorité des pays européens ont des centres fermés. Les conditions peuvent être bien moindres dans les pays à l'Est, disons. Mais en France, en Allemagne, etc., c'est assez similaire.
Mais il y a des pays qui sont un peu plus modèles pour le regroupement familial, par exemple ?
C'est une bonne question. Je ne suis pas un expert, je ne pourrais pas vous répondre.
On peut l'espérer. Hein,
On peut l'espérer, oui.
Ça pourrait inspirer nos décideurs. Voilà, je vous propose, Nicolas Wery, de marquer une nouvelle pause en musique avec votre second choix. On va écouter Tupac.
In the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never
be the same. Yeah, oh yeah.
That's just the way it is. Oh yeah.
I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racists. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people. They'll be acting right. 'Cause both black and white and smoke. Tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or concealed, a fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today.
But you made it in a sleazy way. Selling it back to the kids.
I gotta get paid.
But hey, well, that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh, come on.
Oh, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. Just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. But it raised no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back, 'cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tat, 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 tat.
That's the way it is.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same.
that's just the way it is. Oh yeah.
Something's never changed.
Troisième partie de cette émission Plein Feu, consacrée aujourd'hui à Nicolas Wery, et plus particulièrement à la détention en centre fermé. Alors Nicolas Wery, comment se décide la possibilité de renvoyer vers le pays d'origine une personne détenue ?
On va dire qu'il y a deux critères. Il y a un critère qui est très, très pratique, savoir si le retour est possible, s'il y a des vols qui existent vers ce pays, si la personne peut être identifiée comme étant ressortissant de ce pays, si elle a un document pour voyager, un passeport ou alors ce qu'on appelle un laissez-passer. Ça c'est l'aspect très pratique. Il y a un aspect qui est plus juridique aussi, c'est de voir si le retour vient violer certains droits fondamentaux de la personne. C'est-à-dire que si en cas de retour, la personne pourrait subir des traitements inhumains, alors en théorie, on ne peut pas la retourner. Le droit à une vie familiale doit également être pris en considération lors d'un retour. Elle est, je l'ai déjà dit, de manière assez formelle, malheureusement.
Concrètement, une personne pourrait se voir rapatriée alors que sa famille resterait en Belgique.
Ah, mais ça arrive peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, oui, clairement.
Et là, quels sont les arguments avancés alors ?
Par l'office, eh bien à nouveau, j'en reviens à ces fameux moyens de communication modernes par lesquels une vie familiale peut être vécue apparemment. Bon, ce sont des arguments qui viennent de la jurisprudence européenne, on va dire. Hein, mais ça, c'est un gros argument qui est systématiquement invoqué. Il y a également le fait que la personne peut postuler pour le regroupement depuis le pays d'origine, ce qui est vrai aussi dans certains cas, clairement. Mais alors pourquoi procéder au retour, à l'éloignement et à la séparation de la famille pendant plusieurs mois ? Si ce regroupement peut avoir lieu du territoire belge, quoi, tout simplement.
Et là, vous voulez dire un regroupement qui serait demandé depuis l'étranger vers la Belgique ?
Exactement, oui.
Et vous avez des cas où ça aboutit ?
La procédure est compliquée, elle est longue, elle est chère, mais ça aboutit, oui. Mais typiquement, je prends... Dans le rapport, il y a un exemple d'un couple, une Indienne avec un Afghan, qui vivait en Inde. Ils sont venus en Belgique ensemble. Ils s'étaient mariés de manière religieuse là-bas en Inde, ils sont venus en Belgique, ils ont tous les deux demandé l'asile, le monsieur a obtenu l'asile, la dame s'est fait refuser la protection internationale, et la fin de l'histoire, c'est que madame a dû retourner vers l'Inde pour demander le regroupement depuis l'Inde. Ce qui va arriver, mais ça, est-ce que tout ça est nécessaire, quoi ? Est-ce que c'est nécessaire de renvoyer madame vers le pays d'origine ? Est-ce qu'il y ait une vie familiale qui soit vécue à distance pendant X mois ? Qu'il y ait de l'argent qui soit investi, que oui, c'est juste par moment tout simplement illogique, quoi, moi je trouve.
Et quand vous dites cher, ce sont des frais essentiellement de justice ?
Des frais de procédure, des frais de justice, oui, clairement, ce genre de choses.
Est-ce que ça veut dire que, en cas de rapatriement dans le pays d'origine, c'est la fin de la possibilité d'aller vivre dans un autre pays où la personne peut retenter sa chance, revenir par exemple en Belgique ?
Oui, la personne peut en théorie, si elle est éligible, si les critères sont là, elle peut postuler pour un regroupement et pour donc revenir en Belgique par la suite. Oui.
Ou si la situation évolue dans son pays d'origine ?
Éventuellement aussi, oui. Si la guerre éclate dans son pays et qu'elle revient en Belgique, elle pourrait demander la protection et alors à ce moment-là se la voir conférée, oui, c'est possible.
Quelles sont les recommandations formulées par le JRS suite à cette étude ?
Alors ce qu'on aimerait vraiment bien voir advenir, c'est que les personnes qui ont de la famille ne soient tout simplement plus placées en détention. C'est un petit peu idéologique, je pense. Enfin, pas idéologique, c'est un petit peu, oui, ça en demandait beaucoup, disons. Donc il y a des plus petits pas à prendre, enfin, qu'on pourrait prendre, si on veut. Simplement le fait que l'office étranger prenne en considération la vie familiale lorsqu'elle décide de recourir à la détention. Ça, c'est une chose. L'office ne doit pas le faire pour l'instant, alors que si, dans une situation donnée, l'office voit qu'une personne vit avec un enfant et une compagne, typiquement, dans un logement particulier, est-ce qu'on pense vraiment que la personne va s'échapper, va vraiment s'enfuir quelque part ? Je ne pense pas, typiquement. Mais ça n'existe pas pour l'instant. Une autre recommandation, c'est que le juge judiciaire pourrait venir contrôler la détention et voir quelle est la situation familiale. Pour l'instant, le juge n'a pas le droit de regard par rapport à ça. Il peut simplement voir si l'office étranger a motivé sa décision par rapport à la vie familiale, mais il ne peut pas venir évaluer, si on veut, la qualité de ses arguments. Et ça, ce sera important, je pense, réellement.
Une simplification administrative aussi ?
Ça, oui, mais ça, c'est un autre sujet. C'est par rapport au regroupement familial, oui. Là, je pense qu'il y a beaucoup, de nombreuses vraiment modifications à faire.
Ce regroupement familial, il concerne combien de personnes sur le sol belge par an ?
Oh, à nouveau, on travaille sur la détention, je ne pourrais pas vous le dire, mais les chiffres sont disponibles, hein, clairement.
un fonctionnement différent avec une interdiction de séparer les familles, l'intérêt supérieur de l'enfant, des critères plus compréhensibles sur les décisions de séjour. Est-ce que tout cela passe forcément par des lois ?
Pas nécessairement. Il y a la pratique, évidemment, de l'office étranger qui pourrait très bien venir typiquement motiver ses décisions par rapport à la vie familiale. Mais néanmoins, si on veut bétonner, cela passe, oui, par la loi.
Nicolas Oueri, hein, vous êtes chargé de plaidoyer pour le JRS. Comment les citoyens belges peuvent-ils soutenir les personnes en détention et leurs familles si ils le souhaitent ?
C'est une grande question, ça, je pense. En parler, il me semble, pour commencer, oui, en parler, les vertus de la discussion, de la conversation. Il y a tellement peu de... C'est un sujet qui est tellement peu connu, qui est tellement peu connu des citoyens. Je pense simplement si on peut commencer à en parler pour éventuellement former un front commun, ce serait pas mal, oui.
Ne pas les oublier.
Exactement.
Peut-être devenir visiteurs eux-mêmes.
C'est une possibilité, oui, au sein du JRS, en tant que volontaire, en tant que... Oui, ça...
Vous accueillez chaque année de nouveaux volontaires.
Chaque année, oui. Oui, ça se passe de... Il y a deux types de volontaires. Il y a les volontaires qui vont chaque semaine, ou peut-être toutes les deux semaines. Et puis d'autre part, il y a ce qu'on appelle les visiteurs amicaux, qui, eux, se rendent aux horaires de visite pour visiter une seule personne qui se sent un petit peu, enfin, qui se sent vraiment seul, qui se sent vraiment isolé et qui a formulé le souhait d'avoir quelqu'un qui parlait de manière plus longue. Ça existe aussi, oui.
Ce sont de belles relations qui s'établissent alors ?
Absolument, oui.
Nicolas Oueri, sur la migration, notamment sur les réseaux sociaux, on voit quand même pas mal d'idées fausses qui circulent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir ?
Je trouve ça dommage pour la qualité du débat, disons, qu'il y ait beaucoup de choses fausses, comme vous dites. Je pense qu'une bonne information, une information juste, serait un premier pas pour venir un petit peu dépolariser le débat, oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez spécifier qui n'est pas connu du grand public ?
Il y a beaucoup de choses, hein. On parle souvent d'invasion migratoire, avec des chiffres qui serait incroyable, alors que ce n'était pas spécialement le cas. La migration internationale, c'est 3% de manière très constante depuis 20-30 ans. Deuxièmement, il faut dire que on entend souvent cette phrase, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il faut savoir qui accueille typiquement les réfugiés. De manière très large, c'est effectivement uniquement les pays voisins, frontaliers, des pays en conflit ou autres. Hein. Il n'y a que 15% des personnes... De ces fameux 3% de personnes déplacées, de migrants si on veut, qui sont accueillis dans les pays européens, quoi, si on veut. Ouais. Il y a beaucoup de choses, vraiment. Ouais.
Et la notion d'appel d'air qu'on avait entendu de la part de certains politiques, c'est quelque chose qui se vérifie ? Est-ce qu'à partir du moment où la procédure peut être parfois simplifiée, où les demandes sont un peu plus accordées, on voit plus de je ne sais pas si c'est des réseaux de migration qui se mettent en place ?
C'est une bonne question. Il n'y a jamais eu d'études scientifiques qui sont venues établir que, enfin, cette fameuse théorie de l'appel d'air. Il y a un très bon bouquin de Hein de Haas, qui en flamand et en anglais, qui s'appelle How Migration Really Works, qui vient indiquer que le principal facteur qui attire la migration, c'est simplement les possibilités d'emploi, disons. Donc, quand une économie va bien fonctionner, Il y a la migration qui va se diriger vers ce pays. Il semblerait que c'est vraiment le grand facteur. Et qu'il est totalement aberrant de vouloir contrôler la migration en ce sens, parce que oui, ces facteurs-là sont apparemment les plus importants.
Je reviens un peu en arrière et à votre expérience dans plusieurs pays. Vous avez parlé notamment de la Grèce. C'est des pays qui ont connu une pauvreté importante. Est-ce que dans ce cas-là, on a une réaction de la population qui accueille moins favorablement alors la migration ?
Mais son exemple peut être un petit peu extrême de prendre la Grèce où vraiment là, les principales rives européennes se font par ces pays-là, où il y a vraiment proportionnellement beaucoup plus de personnes migrantes et donc... Ça génère des frictions, je pense, oui. Après, je suis pas contre... Enfin, je suis contre, disons, vouloir un petit peu fragmenter les faibles, quoi, disons. Je suis pas pour opposer pauvres et migrants, typiquement. Je pense qu'il y a d'autres solutions.
Et alors, une question peut-être plus générale, et bon, je sais que vous n'êtes pas forcément expert en la matière, mais votre regard sur la gestion européenne, En tant que journaliste, j'ai l'impression que ça manque parfois de cohésion, de cohérence, parfois des bonnes intentions de certains États, mais que la mise en pratique, en tout cas, tarde à arriver.
On nous promet maintenant avec ce nouveau pacte que tout ça va être résolu. J'y crois très peu. Je pense qu'au niveau européen, il y a plusieurs tendances qui se dessinent. Il y a une augmentation de la détention, ou en tout cas la détention de fait. Ça, c'est clairement quelque chose qui revient. Il y a une criminalisation de la migration aussi. C'est une tendance qu'on aperçoit dans plusieurs pays. Il n'y a pas immensément de choses qui donnent de quoi se réjouir, quoi, disons, en tout cas, au niveau européen. Ouais.
L'Europe n'est pas forcément le territoire le plus accueillant.
Absolument pas, non.
Et les élections qui se rapprochent, est-ce que ça pourrait faire évoluer favorablement la situation ?
Mais en Belgique, on a la chance d'avoir, enfin la chance, en tout cas à ce niveau-là, d'avoir des gouvernements de coalition. Et donc, dans ces coalitions, souvent, il y a tout de même quelques partis qui tournent un petit peu plus l'oreille à ce genre de problème. Bah après, ce que les partis peuvent achever, ce qui peut être gagné en termes, enfin, à ce niveau-là, ça reste des victoires un petit peu, enfin, pas à la Pyrrhus, mais ça reste minimal, quoi, disons. Donc, quand même un petit peu d'espoir, hein, mais...
C'est bien de terminer par cette note d'espoir. Nicolas Wery, un tout grand merci d'être venu nous informer sur cette question de la migration des centres fermés en Belgique. Je rappelle que votre étude est à retrouver sur le site du JRS, jrsbelgium.be.
.org, il me semble.
.org. Merci à Angélique Tazio d'avoir préparé cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine Plein Feu. Au revoir.